Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h42, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Manuel Valls.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci de faire votre rentrée médiatique sur RTL au lendemain de la présentation de votre programme. On va en parler bien sûr et puis les auditeurs vous interrogeront à partir de 8h20 avec Yves Calvi. D'abord, une curiosité, vous avez revendiqué un droit à l'inventivité hier, c'était pas la première fois d'ailleurs, mais franchement on cherche en vain des idées vraiment nouvelles dans votre programme. C'est pas obligatoire de faire du neuf, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là du coup?
Je vous pose à vous la question.
Droit d'inventivité. On a envie de dire droit d'inventivité. Est-ce que ça n'est pas plutôt le droit de se réinventer pour Manuel Valls?
Mais d'abord, il faut poser, Elisabeth Martichoux, les enjeux de l'élection présidentielle. C'est ça qui intéresse les Français. Moi, je crois que cette élection présidentielle qui est ouverte, où rien n'est écrit, personne d'entre vous ne sait comment cette élection présidentielle, c'est le choix des Français, va se terminer. C'est une élection présidentielle qui est peut-être la plus importante depuis des années. Je la crois même plus importante que celle de 1981. Parce que les Français vont avoir vraiment à faire un choix de société sur leur modèle républicain et sur leur modèle social. François Fillon propose une purge. Propose de casser.
Il vous a dit hier, vous l'avez peut-être entendu, il faut arrêter les caricatures.
Il propose...
C'est trop facile.
Ah bon ? Quand on propose de supprimer 500 000 fonctionnaires... C'est son programme.
Il a même dit, vous disqualifiez, ceux qui disent ça disqualifient le débat public.
Quand il propose de supprimer 500 000 fonctionnaires, en les visant d'ailleurs, en les rendant responsables des maux du pays, ça veut dire moins de policiers, moins de gendarmes, moins d'enseignants, moins d'agents hospitaliers, moins de services publics de proximité pour protéger, pour soigner. C'est une caricature, c'est dans son programme. Dans son programme, il y avait aussi le démantèlement de la sécurité sociale par la privatisation.
On va y revenir.
Il cherche à y revenir, c'est dans son programme. C'est-à-dire que quand on s'adresse aux électeurs de la primaire, on s'adresse aussi aux Français. Donc, il est là l'enjeu. Et moi, dans cette élection présidentielle, je veux présenter ce que j'appelle un bloc. Une unité, un bloc...
C'est entendu.
Non. C'est comme ça que le programme commence. Un bloc républicain, laïque et social. Et c'est ça, la République forte et la France juste.
Et la France juste, c'est votre
nouveau
slogan.
Et donc, nous ne sommes pas Elisabeth Martichoux.
Mais oui, mais sauf que vous ne répondez pas à ma question.
Si je vous réponds...
Vous parlez d'inventivité, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Elisabeth Martichoux, nous ne sommes pas dans un concours. Nous sommes dans une
vous
élection...
Vous êtes dans une compétition ? La primaire, c'est une compétition ?
Nous sommes dans une compétition électorale, mais nous sommes dans un moment grave. Nous sommes dans un moment particulièrement grave pour le pays. La France de 2017 n'a rien à voir avec la France de 2012. Nous sommes, il y a moins de 5 ans, l'État islamique n'existait pas, ou en tout cas n'avait pas de territoire. Donald Trump était connu comme un animateur de télévision.
Le Manuel Valls, candidat à la primaire
tensions,
de 2011. Le Manuel Valls, Premier ministre, vous étiez encore à Matignon il y a moins d'un mois. Et aujourd'hui, c'est le Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, à la présidentielle, et vous dites, j'ai le droit d'être différent.
Candidat à la présidence de la République dans ce monde, et 2017, mettez-vous les uns et les autres ça dans la tête. 2017 n'a rien à voir avec 2012, avec 2011, parce que le monde a profondément changé. Et quand on est candidat à la présidence de la République, quand on pense qu'on peut être président de la République, quand on pense qu'on peut gagner, et moi je pense que je dois gagner, tout simplement parce qu'il faut que la gauche gagne, parce que la France a besoin de la gauche, on présente un programme sérieux, solide, détaillé, avec des orientations. J'assume évidemment tout ce qui a été engagé depuis 2012 avec François Hollande, nous y reviendrons. Mais en effet, j'ai revendiqué sur un certain nombre de sujets le droit d'inventivité, d'ouvrir de nouveaux chantiers.
Je suis prêt à y répondre. La preuve que c'est difficile, c'est qu'il ne suffit pas de dire j'étais Premier ministre, j'ai utilisé le 49-3, je suis candidat, je ne veux plus utiliser le 49-3. C'est perçu par beaucoup comme une incohérence. Vous le comprenez, ça ? Vous comprenez qu'on puisse le percevoir comme ça ou pas ?
Mais moi, je tire les leçons de l'expérience qui a été la mienne comme Premier ministre. Si j'ai décidé de quitter Matignon pour être candidat à la présidence de la République, c'est parce que je pensais qu'on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Il fallait que je me donne le temps de la réflexion, cette distance nécessaire par rapport à l'exercice du pouvoir pour travailler sur un projet, pour aller devant les Français, grâce à vous, pour faire un certain nombre de propositions. Et dans ce projet, oui, je crois beaucoup à la nécessité d'une renaissance démocratique. D'abord en donnant plus de moyens aux collectivités territoriales.
Donc ça n'a pas été une erreur. On termine là-dessus, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de Français qui disent mais cette histoire de 49.3, ça ne passe pas. Ça n'est pas une erreur d'avoir dit en décembre, il y a quelques jours, le 49.3, finalement, j'y renonce, sauf dans le cas du débat budgétaire.
C'est dans mon projet, parce que je crois de renaissance démocratique, d'accord, plus de responsabilités aux collectivités territoriales. La France des régions a changé. La République des territoires a changé. Nous avons aujourd'hui des grandes régions, des grandes métropoles, une intercommunalité qui monte en puissance, des départements qui assurent leurs dépenses sociales. Il faut leur affecter des ressources. Nous l'avons fait pour les régions avec la TVA. On peut le faire avec les départements avec une part de CSG. Moi, je crois à la force des territoires, parce qu'il y a aussi ces fractures territoriales dont on parle peu, entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Je crois aussi à la revalorisation du rôle du Parlement, dont je propose de diminuer le nombre de députés et de sénateurs, puisque c'est le Parlement du non-cumul. J'ai porté la loi sur le non-cumul des mandats. Il faut aller plus loin. Donc c'est le non-cumul dans le temps que nous proposons aussi. Et dans le cadre de cette réforme, oui, parce que je crois à la maturité. Si j'ai dû présenter, si j'ai dû utiliser le 49.3 deux fois sur la loi Macron et sur la loi Travail, c'est parce qu'il y avait une fronde au sein du groupe socialiste. Mais textes, bien évidemment que j'aurais préféré un dialogue qui aboutisse différemment.
Donc vous dites que c'est pas de ma faute, c'est à cause des frondeurs.
Ne caricaturez pas les propos. Je dis tout simplement que je tire les leçons, que je crois à un Parlement responsable et qui associe par ailleurs aussi davantage les citoyens. Voilà les propositions que j'ai faites. Je me suis beaucoup inspiré du rapport de Claude Barthelone et de Michel Vinocq, le président de l'Assemblée nationale, un grand intellectuel. Ça veut dire qu'il y a, sur la place, sur la table, beaucoup d'éléments de réflexion et que les responsables politiques, les candidats, doivent être capables de les utiliser.
Alors, sur le positionnement maintenant, votre ligne économique, Vincent Payon, sur France 2 hier, a appuyé un peu là où ça fait mal. Il a dit Manuel Valls, il incarne l'aile droite. Sous-entendu, il ne va pas se débarrasser de sa marque de fabrique comme ça. Moi, je suis au centre. Il y a la gauche sociale incarnée par Montebourg et Hamon dans cette compétition. Et il vous renvoie à la droite de la gauche, si je puis dire.
Il y a un instant, et je voulais le dire, Yves Calvi, en présentant la primaire, a dit c'est la primaire des courants du Parti Socialiste. Attention. Attention, parce que je pense que ça ne sera pas cela. Puisqu'il y aura, j'en en doute pas un seul instant, en tout cas c'est une condition de sa réussite, plusieurs millions de Français qui viendront choisir leur destin. Parce que, à l'occasion de cette élection présidentielle, il s'agit de choisir le destin de la France, de ce grand pays que j'aime, de ce pays qui rayonne dans le monde grâce à sa diplomatie, grâce à ses armées, grâce à son histoire, à sa culture, et aussi grâce à son économie, à son industrie, à son agriculture. C'est tout cela, la France. Si je suis candidat, Elisabeth Martichoux, c'est que j'aime ce pays. C'est que je suis devenu français, que je l'ai appris
et
à aimer.
Et vous le rappelez à 20 ans, oui, par naturalisation.
Oui, donc, mais je veux lui donner tout ce qu'il m'a donné. Donc, moi, je prends cette élection primaire au sérieux.
Vous voulez dire que quand Vincent Payon le prend sous cet aspect-là, c'est un petit peu le petit bout de la lorgnette, il n'y a pas ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche.
Mais ce n'est pas le sujet. Moi, je suis au cœur.
Il se trompe.
Je suis au cœur, surtout après les fonctions que j'ai exercées, comme ministre de l'Intérieur, comme Premier ministre, je suis au cœur des progressistes. D'Emmanuel
c'est
Macron,
ça, votre définition. Si on vous
d'Emmanuel, dit, ouais. D'Emmanuel Macron jusqu'à Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. Je suis au cœur, à travers les fonctions. Moi, j'ai changé. J'ai évolué, bien évidemment. J'ai toujours mes convictions. L'idée que je me fais de la nation, la laïcité au cœur, la République, parce que je pense que ce pacte républicain doit être renouvelé.
C'est pas ça qui est compliqué pour vous, Manuel Valls, c'est de dire je me recentre finalement
et
aujourd'hui.
Je me recentre où, à quoi? Je me ressens. J'étais chef de la majorité, j'étais Premier ministre, j'ai exercé des fonctions majeures.
Mais il ne faut pas perdre votre identité.
Des moments majeurs de crise économique, avec cette urgence écologique, puisque tout se joue dans les 5 à 10 ans, face surtout à la menace terroriste. Et en même temps, je suis ce que je suis, c'est-à-dire celui qui a été pendant plus de 10 ans maire d'Evry, qui est l'élu de quartier populaire. Moi, contrairement à d'autres, je suis ancré dans la réalité de ce pays. Et hier encore, je dis que l'une des priorités, ou plutôt l'un des défis du pays, c'est la montée des communautarismes, c'est la lutte contre l'islamisme radical, c'est la lutte contre le salafisme, contre les frères musulmans, c'est l'égalité femmes-hommes, c'est ce qui se passe dans les quartiers.
On va le voir
ça,
dans
c'est
vos
mon identité,
aussi.
La République. Mais je veux aussi.
Mon atout, c'est que j'ai gouverné. Mon atout, c'est que j'ai une stature d'homme
d'État. Non, c'est que j'ai un discours. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Vous pourriez dire hommes, c'est ça qui me distingue des autres.
Des hommes d'État qui n'ont pas réussi à être présidents de la République, il y en a beaucoup. Donc ça n'est pas ça seulement le sujet. Cette expérience, je la mets au service des Français. Mais ce que je suis, ce républicain, avec ce langage de vérité, ça je l'ai. Et je veux en même temps porter cette frange juste, parce que la question des inégalités à l'école, sur les territoires, le sentiment d'oubli, alors, d'humiliation que subissent beaucoup de nos concitoyens, il faut donc le porter par des propositions concrètes.
On y va. Une République forte, une frange juste. Juste sur la question de sécurité, vous proposez un service civique national obligatoire de 6 mois. Obligatoire.
Oui.
Pour tous les jeunes.
Oui.
À quel âge ?
À partir de 16 ou 18 ans. Jusqu'à 25 ans, pour pouvoir, dans cette période, sous des formes différentes d'engagement, donner une part du temps à son pays.
Donc, ce n'est pas rémunéré ?
Il y a, on aura l'occasion de le préciser, il y a eu la montée en puissance du service civique, qui doit beaucoup d'ailleurs à François Chérec. Et j'ai une pensée, évidemment, pour lui.
Mais le même François Chérec disait, au lendemain des attentats en 2015, je ne sais pas si vous en souvenez, le caractère obligatoire...
Il n'y était pas favorable.
Voilà, il n'y était pas favorable.
Nous en avions souvent discuté. Moi, je crois qu'il faut passer, avec la méthode et les phases nécessaires, et puis le débat qui va avoir lieu autour de cette proposition, à cette phase obligatoire. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent.
C'est quel but ? Quel est le but du service ?
Beaucoup de jeunes qui s'engagent dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée, beaucoup de jeunes dans le service public, dans les associations caritatives pour venir en soutien aux personnes qui ont un handicap, dans les restaurants du corps. Beaucoup de jeunes dans des ONG pour aider des pays en voie de développement. Beaucoup de jeunes qui s'engagent. Mais je pense que ce dont nous avons le plus besoin, c'est que la nation retrouve du sens, qu'il y ait de la fierté.
C'est ça le but,
oui,
surtout.
Ce qui manque aujourd'hui,
de réancrer la jeunesse dans la nation.
Ce qui manque aujourd'hui dans ce beau pays qu'est la France, c'est de la confiance en soi-même, de la fierté. Et je pense que, maintenant que nous constatons ces fractures, il y a cette menace terroriste, cette perte d'identité et de sens, il faut faire sens, il faut faire France. Donc, ce service civique obligatoire, pour des jeunes hommes et des jeunes femmes, doit permettre, c'est une des propositions pour continuer à donner du sens à la République.
Mais le débat est ouvert sur les modalités. Défiscalisation des heures sup, vous dites on l'a supprimé, ça n'a pas été compris, il faut qu'on y revienne. Ce sera apprécié par tous ceux, effectivement, qui n'ont pas du tout compris cette suppression. C'est exactement le même périmètre d'exonération que vous proposez, comme la mesure Sarkozy.
Je veux rétablir cette mesure, parce qu'en effet, il y a eu un sentiment de frustration, sentiment au fond qu'on ne prenait pas en compte ceux qui travaillaient davantage.
Et donc
je veux rétablir cette mesure en commençant par une exonération des cotisations sociales, ce qui veut dire concrètement augmenter directement le salaire net des travailleurs, ça c'est un coût de 2,5 milliards d'euros, avant la défiscalisation à proprement parler, là c'est un coût de 1,5 milliard
d'euros.
D'accord,
ce sera en deux temps.
Pour
des questions budgétaires.
Oui, mais pour que cette mesure bénéficie d'abord à ceux qui en ont le plus besoin et pour éviter les abus, je propose de fixer un plafond au-delà duquel les heures supplémentaires ne sont plus défiscalisées, pour être fixées par exemple entre 5 000 et 6 000 euros de rémunération exonérée par an.
En volume horaire,
et c'est le plafond qui fait sans doute la différence avec la mesure qui avait été adoptée en 2007. Mais c'est vrai que cette suppression n'avait pas été comprise, et c'est normal, parce qu'elle apportait un réel supplément de pouvoir d'achat aux 9 millions de salariés et fonctionnaires, et parfois ouvriers et agents de maîtrise.
Votre programme, on y reviendra avec les auditeurs tout à l'heure. Juste un petit mot, vous voulez réduire de moitié l'écart de salaire entre hommes et femmes, l'effacer même complètement sur 10 ans, à moitié sur 5 ans, vous voyez très loin, c'est bien, l'ambition. Faites comment ? L'imposez aux entreprises, vous faites comment ?
Par le dialogue social, parce que je crois aussi au dialogue social.
Ça fait
par le dialogue...
20 ans qu'on promet ça aux femmes.
Oui, mais il faut être beaucoup plus volontariste.
La
question de l'égalité femmes-hommes est au cœur de mon progrès. Il y a la discrimination de mon projet qui est aussi
un progrès.
dans ce projet, je le mets ainsi, parce que d'abord il y a ce dont souffrent les femmes, le sexisme, les discriminations, les violences. N'oublions jamais qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, celles qui sont interdites même de l'espace public. Et puis il y a évidemment l'égalité professionnelle, salariale, mais aussi dans les responsabilités dans les entreprises. Donc oui, il faut être volontariste. Vous voyez, on peut être à la fois inventif, volontariste, prolonger ce qui a été fait, aller plus loin proposer de nouveaux choix.
En 15 secondes, Manuel Valls, il y a une auditrice d'RTL qui vous avait reproché de ne pas assez sourire. Dans vos vœux, 2 minutes, on les regarde attentivement, vous esquissez à peine un sourire. Vous êtes sûr que cette gravité, cette dureté parfois, elle n'est pas un peu excessive ?
Ce sont des détails. Moi, ce que je veux, c'est bien sûr convaincre, séduire, être moi-même, Je suis libre, c'est enthousiasmant de porter un projet, d'aller devant les Français, de dire, par exemple, je veux une société du travail, parce que le travail rend la dignité de faire de l'emploi ma priorité. Mais j'y vais avec mes convictions, avec mon caractère, parce que je pense que je peux être président de la République.
À tout à l'heure, à 8h20, avec Merci. Yves Calvi.
Cette élection est la plus importante depuis très longtemps, sans doute depuis 1981, vient de nous dire Manuel Valls, parce que le programme Fillon est une purge. Alors allez-vous convaincre, je reprends vos termes, voire séduire les auditeurs d'RTL. On en reparle d'ici une vingtaine de minutes. Manuel Valls, merci de rester avec nous. Vous débattrez avec nos auditeurs au 3210. Elisabeth Martichoux sera bien entendu de retour avec nous. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.